une rééducation, un pays, un retour, c'est la règle de trois de Dai Sijie. En 1971, 5 ans après le lancement par Mao de la grande révolution culturelle prolétarienne, Dai Sijie est envoyé en rééducation dans un village de montagne de la province du Sichuan. Il vit alors chez des paysans illettrés et travaille dans un champ de maïs, une période de 3 ans qu'il qualifie aujourd'hui d'absurde. À la fin des années 70, il étudie l'histoire de la peinture chinoise à l'université de Pékin. Brillant élève, quelques années plus tard, il remporte une bourse pour partir à l'étranger. Le pays où il souhaite poursuivre ses études est le Japon, mais les autorités chinoises l'envoient en France. Un soir, avec des amis, il entre dans un ciné-club à Bordeaux dans l'espoir de voir un film pornographique, mais il tombe sur un Buñuel tourné au Mexique, peut-être Los Olvidados. C'est une grosse déception, bien sûr, néanmoins, ce film lui donne envie de se lancer dans le cinéma. Il sort son premier long-métrage, Chine ma douleur, en 1989.
Ce que nous, on voudrait bien montrer, c'est plutôt ce qui est torture psychologique, c'est plutôt une situation vraiment bête et stupide.
En 94, il tourne Le Mangeur de Lune, un film pour lequel il a une grande affection, puis Tangle 11e en 98. Et en 2000, il publie son premier roman, Balzac et la petite tailleuse chinoise, qui provoque un certain enthousiasme.
Et si ce livre ne devient pas un best-seller, cette émission ne sert à rien.
Balzac et la petite tailleuse chinoise se vend à 250 000 exemplaires en France et traduit en 25 langues et adapté au cinéma en 2002. Dans une interview datée de 1994, Dai Sijie déclarait « Plus je vis dans un pays occidental, plus je deviens chinois ». Si après le succès de son premier roman, il publie de nombreux livres, notamment Le complexe de Di qui remporte le prix Femina en 2003.
Ils ont bien compris pour un chinois qu'est-ce que c'est difficile d'écrire en français.
S'il sort encore un film en France en 2006, aujourd'hui il partage son temps entre Paris et la Chine. Son nouveau roman nous y emmène d'ailleurs, mais dans la Chine du début du 20e, en cette période chaotique qui aboutira à la proclamation de la République populaire de Chine par Mao en 1949.
Voilà Dai Sijie, quelle vie, l'évangile selon Yongsheng. Ben oui, Yongsheng, c'est votre grand-père qui vous a plus ou moins élevé, qui a été persécuté à partir des années 50 pour avoir été religieux, chrétien, un pasteur, un des premiers pasteurs chrétiens. Des persécutions terribles, pire que ce que vous racontez dans le roman.
Oui, parce que ça, c'est un roman que ce que je voulais montrer, c'était pas pour accuser ou simplement pour dénoncer. Ça, c'est des choses, je pense, tout le monde au courant déjà. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est aujourd'hui, vous voyez que la Chine, et c'est presque, c'est chose qui motivait tout le monde. L'autre jour, on m'a demandé l'âme chinoise aujourd'hui, c'est quoi?
C'est plutôt
l'argent. Hein. Ah. Mais c'est pour ça que j'ai écrit ce roman. C'est la Chine que j'ai connue, que j'ai aimée. Mon grand-père, qui pendant longtemps j'ai vécu avec lui quand j'étais petit, hein.
Oui.
C'est vraiment la première chinois que j'ai vu réellement qui a une foi, hein, qui n'est pas peut-être pas bouddhiste ou
taoïste.
Oui, mais c'est déjà beaucoup de choses.
C'est pas
quelqu'un qui aimait l'argent.
Non, il était charpentier, voilà, il était prophète, il était chrétien. Ouais. Mais vous dites la Chine que j'aime. Pourtant, la Chine lui a infligé des souffrances terribles, ainsi qu'à vous. Vous avez passé 3 ans dans un camp de rééducation. Vous aimez toutefois cette Chine?
Oui, un chinois, c'est quelque chose. Ça, c'est très particulier. Hein. Par exemple, il y a ce grand architecte qui s'appelle Pei, hein, qui a créé.
Qui a fait la pyramide du Louvre.
Voilà. Hey. J'ai interviewé une fois, hein, il m'a répondu, il s'est concentré toujours comme un chinois. Ça m'a vraiment étonné. Mm-hmm. Hein. Il est toujours un Chinois. Quand on est un Chinois, toute la vie on est Chinois. Malgré que tout le succès, au début, longtemps, il était nationalisé. Hein. Et des moments qu'il s'est nationalisé en Amérique, ça, il m'a
toujours
raconté.
Chinois,
il m'a raconté.
L'âme chinoise. Vincent.
Votre Balzac et la petite tailleuse chinoise, votre livre à très grand succès, a finalement été publié en Chine avec un avertissement disant qu'il était politiquement dangereux. Est-ce que la littérature est toujours une dissidence en Chine? C'était le thème de ce très beau roman. Ou est-ce que la Chine contemporaine est indifférente finalement aujourd'hui aux écrivains?
Aujourd'hui, ça s'est complètement changé, la Chine, sur ce point-là. Mm-hmm. Hein. C'est tellement radical que la littérature était déjà morte en Chine. Mm. Et déjà, c'est à cause de ce qui était arrivé, tout ce Internet, tout ça. Mmh.
La révolution numérique a tué la littérature en Chine.
Il n'y a plus de littérature. Hein. C'est même à peine encore, même il n'y a plus de librairies. À Pékin, je ne sais pas combien de librairies qui restent.
Vous êtes un dinosaure, alors.
Oui, c'était très marginal. Hein. C'était vraiment très... Si on dit à un Chinois, un écrivain pourrait aller dans une émission de télévision, on va dire que vous avez exagéré.
C'est de la science-fiction.
Oui, science-fiction. Et l'autre jour, je suis revenu en France, je suis entré dans le métro, j'ai vu qu'il y a des gens qui lisent des livres.
Oui.
J'ai presque pleuré, vraiment.
Vous avez pleuré?
Parce que c'est ma vie, hein, les livres. C'est...
Alors, on va parler, après votre grand-père, Dai Sijie, de la Chine d'aujourd'hui, les droits humains, entre autres, Nadia.
Parce que cette révolution numérique qui a tué le livre, elle est toutefois très utile au régime pour pratiquer la surveillance de masse des citoyens. Il y a beaucoup de nouveaux outils qui se développent chaque jour. Le dernier en date, c'est une application Internet qui est assez terrifiante. C'est un algorithme qui permet de géolocaliser les mauvais payeurs. Ça veut dire que si vous êtes une personne endettée et que vous entrez dans un rayon de 500 mètres, vous allez être signalé aux autres personnes alentour et ça enrichit un programme qu'on appelle le crédit social chinois. C'est le système de notation des citoyens par le pouvoir. C'est testé pour l'instant dans quelques municipalités, mais ça devrait être généralisé à l'ensemble du pays en 2020. Concrètement, grâce à ces nouvelles technologies, le régime va collecter des données sur les individus. Ces individus vont être notés et la note dégradée selon les comportements. Si on traverse au rouge, par exemple, la note baisse. Si on dit du mal du régime, la note baisse. Et ça a un effet sur la vie quotidienne. Est-ce que, nous, vu d'ici, ça nous terrifie? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une Chine qui fait de la dictature 2.0? Est-ce que la Chine est une dictature 2.0?
Aujourd'hui, je pense que c'est une sorte de
totalitarisme.
Voilà. Mais pas 100% dictature. Oui. Hein. C'est mon avis. Hein. C'est une sorte de capitalisme.
Ah oui.
Hein, c'est le capitalisme de l'État. Hein. Et malgré tout, que tout ça, je n'ai pas encore vu ce que vous avez dit, je n'ai pas fait appliquer. D'ailleurs, moi, comme je n'ai pas le droit d'avoir un compte en Chine.
Vous êtes tranquille, vous avez pas.
J'ai pas la nationalité française, c'était considéré un Chinois qui vit ailleurs, qui n'a pas le droit
d'avoir un statut à part.
C'est-à-dire, tous ces problèmes. Mais il se trouve que Internet. Il n'y a pas que des choses mauvaises. Hein. C'était aussi, il y a des gens qui puissent exprimer.
On peut s'exprimer malgré la censure.
C'est-à-dire, ils ont trouvé des moyens de
contourner.
Parce c'est que ça. Internet, parce que ça, c'est écriture chinoise, c'était quelque chose de particulier. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire, ces mots chinois, hein, ils utilisaient, on ne peut pas censurer d'ailleurs, on ne peut pas censurer 100%.
Oui.
Hein, si vous dites, par exemple, si vous dites le Parti communiste, il s'appelle Gong Chan Dang, vous pouvez prendre d'autres mots pour dire ça. Il y a même prononciation, tout le monde comprend ça, qu'est-ce que ça veut dire. Vous voyez,
il faut ruser.
Oui, voilà, c'était pas si grave que ça. Il y a d'autres choses plus graves que Internet.
Une dernière question pour revenir à votre livre. Vous évoquez un arbre merveilleux, magique, parfumé, qui est sans doute la dernière évocation du héros, l'aguilaire. Mais ça n'existe pas.
Ah si.
Ah bon On a cherché partout.
C'était en France, dans le dictionnaire français, ça n'existe pas. Mais c'est un arbre chez nous. Ça s'appelle Chenxiang. C'est quelque chose de très très cher aussi.
C'est un arbre bizarre qui n'est pas dans le dictionnaire.
Ça, c'était pour les. Mais ça existe. Ah.
C'est un arbre de fiction.
Non, c'est pas fiction.
Merci Dai Sijie d'être passé après vos libations du nouvel an, d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Bonne année. Et je rappelle l'évangile selon Yongsheng.